autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation sur le chemin de l'anaconda aujourd'hui pour déconstruire un mythe, celui de la forêt vierge d'Amazonie qui n'a de vierge que le nom, un nom emprunté à la mythologie grecque qui ne reflète pas vraiment la réalité de ces immenses forêts tropicales, véritable continent vert de plus de 7 millions de kilomètres carrés, bien plus précocement et densément peuplé que notre imaginaire occidental nous le laissait croire. Pourquoi la dimension mythique de l'Amazonie l'emporte-t-elle sur sa réalité géographique? Comment s'est construite l'idée d'un paradis vierge peuplé de sauvages, alors que l'archéologie révèle un tout autre passé bien plus riche, bien plus innovant, celui des peuples amérindiens qui ont façonné, aménagé et géré leurs forêts depuis 13 000 ans. Pourquoi et comment changer de perspective sur l'Amazonie, d'autant qu'il y a urgence? Voilà ce que nous allons demander à notre invité, l'archéologue Stéphane Rostin, formidable défricheur de toutes nos idées reçues sur l'Amazonie, dont les travaux pionniers sur les premières civilisations de l'Amazonie précolombienne ont contribué à changer notre regard sur l'Amazonie et sur ses premiers habitants. Pour vous en convaincre, nous mettons en jeu, chers amis auditeurs, quelques-uns de ses ouvrages, ainsi que le hors-série du magazine L'Histoire consacré à l'Amazonie. Autour de la question « La forêt vierge d'Amazonie existe-t-elle vraiment ?» Bienvenue sur le chemin de l'anaconda, à la rencontre dans cet extrait d'un des leaders du peuple Tucanoané en Amazonie colombienne, Maxi Tanimuka.
Invitaron donde que hablan de la construction de los derechos indígenas en los recursos naturales.
On m'a invité à parler des droits des indigènes et aussi des ressources naturelles. Ils nous ont dit : nous voulons que vos droits soient reconnus. Ils m'ont demandé : qu'en pensez-vous en tant qu'indigène ? J'ai dit, selon moi, il n'y a pas besoin de loi, de statut. On veut que nos droits soient respectés pour maintenir notre mode de vie sur notre territoire. On ne veut que ça. On peut avoir un meilleur président ou plus d'argent, mais ça ne résout rien, le problème subsiste. Le seul moyen de vaincre la menace ou au moins de la contenir sur cette planète, c'est de préserver le nécessaire et de prendre soin de ce qu'on a. Il n'y a pas d'autre moyen.
Un peu de sagesse amérindienne sur le chemin de l'anaconda, extrait de ce très beau film documentaire que vous m'avez fait découvrir. Stéphane Rostin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour éclairer, j'ai envie de dire, notre présent à la lumière de ce passé inattendu que vous avez exhumé en Amazonie. Vous êtes le premier archéologue français à vous être spécialisé sur l'Amazonie, la plupart de vos collègues préférant se consacrer aux grandes civilisations Inca ou Maya. Aujourd'hui, vous êtes directeur de recherche au CNRS, au Centre Mahler d'archéologie des Amériques. Vous avez mis au jour, Stéphane Rostin, une autre histoire, une autre préhistoire de l'Amazonie, à rebours de ce mythe, donc d'un espace vierge, inhabitable. Vos nombreuses recherches, vos fouilles, notamment en Équateur et en Guyane, ont donc mis au jour des sites rupestres, des poteries, des techniques de poterie, mais aussi des villages fortifiés qu'on n'attendait pas, des champs surélevés sur les fleuves, démontrant que les populations précolombiennes n'avaient rien à envier justement aux grandes civilisations Inca et que ces peuples avaient depuis 13 000 ans occupé et géré les espaces des basses terres de l'Amazonie. Amazonie, un jardin sauvage ou une forêt domestiquée, c'était le titre d'un de vos premiers ouvrages. On peut également citer les 12 travaux des civilisations précolombiennes et plus récemment Amazonie, l'archéologie au féminin, ouvrage magnifique dont nous avons un exemplaire à vous offrir d'ailleurs, chers amis auditeurs. Et puis enfin, apparaître, ce sera au mois d'août, aux éditions du Pommier, Stéphane Rostin, l'ouvrage auquel nous avons emprunté le titre de cette émission, La forêt vierge d'Amazonie n'existe pas. Titre volontairement provocateur, Stéphane Rostin, pour enfoncer un peu plus le clou, si j'ose dire.
Provocateur, oui, mais à la fois tellement vrai, puisque la première question qu'on me pose systématiquement quand je dis que je fais des fouilles en archéologie, c'est « qu'est-ce que tu trouves ? Il n'y a rien ». Alors, l'Amazonie vit de paradoxe, hein. Il n'y a rien. Si, il y a beaucoup de choses, mais il faut apprendre à regarder et à voir. Je pense que
longtemps, on n'a pas voulu,
on n'a pas regardé. Il ne faut pas oublier que Christophe Colomb, quand il est arrivé dans le delta de l'Orénoque, a pensé à arriver au paradis terrestre.
C'est ça. Hein.
Et cette idée, elle est restée prégnante pendant très longtemps. On s'attendait à trouver des monstres, des hommes à tête de chien, des hommes à oreilles longues, à corps animal, et on ne les a pas trouvés. On s'attendait à trouver des cannibales, ceux-là on les a trouvés, enfin, c'est plutôt eux qui nous ont trouvés d'ailleurs. Mais on avait déjà conçu l'Amazonie avant de la connaître. Et de là, il y a eu un retour en arrière au siècle des Lumières avec le bon sauvage. Soit on voyait un barbare sauvage, soit on voyait un bon sauvage.
De toute façon, c'était mythologique. Et rien que le nom, pas mal de nos auditeurs sur les réseaux sociaux nous demandent pourquoi ce nom, d'où ça vient, Amazone et Amazonie.
Alors c'est une drôle d'histoire, encore faite d'étrangeté et d'aventure. C'est que la première exploration européenne de l'Amazone est partie de Quito. Ils sont allés au pays de la cannelle, qui était donc à l'est de Quito, dans Quito en Équateur, et donc en Amazonie. Et très vite, ils se sont sentis mal. Ils n'étaient pas du tout adaptés. Il y avait 200 soldats qui mouraient de faim. Ils ont décidé de construire sur le Napo, la rivière Napo, une barcasse et envoyer 60 hommes chercher de la nourriture. Et ces hommes ont été emportés par le courant, n'ont jamais pu revenir. D'ailleurs, ils n'ont pas trouvé de nourriture. Les Indiens leur cachaient bien leurs denrées. Et ils ont dit, puisqu'on ne peut pas remonter, on va descendre. Et ils ont descendu comme ça plus de 3000 kilomètres, longeant pour la première fois de ses sources à son embouchure, l'Amazone. Alors que tous les fleuves sont généralement découverts, explorés depuis l'embouchure vers les sources.
C'était déjà dans le sens inverse.
Oui, ils étaient dans le sens inverse. Donc l'Amazonie a tendance à être un peu contradictoire et le disputer. Mais ils arrivent dans le bas Amazon, ils se sont fait attaquer tout le long par d'immenses villages, même des villes de plusieurs milliers d'habitants. Ils arrivent dans le bas et tout d'un coup, ils sont attaqués une fois de plus par des Indiens flécheurs, menés par une douzaine de femmes. Et comme le chroniqueur de cette expédition était un prêtre et qu'il avait lu ses classiques d'une part et évidemment la Bible, il est revenu au mythe des Amazones classiques grecques et ils se sont dit ça y est, on a trouvé les Amazones de Platon et elles sont en train de nous flécher. Et puis, alors qu'il y a mille raisons pour expliquer pourquoi les femmes, on pourrait en disserter longtemps, pourquoi les femmes combattent, et pourquoi pas, après tout.
Nom d'Amazone donc, et d'Amazonie.
On l'a appelé la rivière des Amazones. Et le mythe est resté prégnant jusqu'au 18e, 19e, parfois pour certains encore, puisque tous les explorateurs ont cherché des Amazones. Ils n'en ont jamais vu, jamais. Mais ça n'a pas empêché d'être très prolifique sur les petites anecdotes croustillantes de ces Amazones qui avaient le poil du pubis très long, qui fléchaient les hommes après les avoir utilisés comme esclaves sexuels, les accrochaient par un pied.
C'est du mythe, hein. C'est
complètement inventé.
Mais finalement, on se rend compte, enfin, avec ce nom même d'Amazonie, et on va le voir à tous les niveaux, que les mythes perdurent dans tous les sens. Comme vous le disiez, pour le bon sauvage, pour le mauvais sauvage. Aujourd'hui, on dit aussi poumon de la planète, c'est plus compliqué que ça. Alors, il y a des chiffres hallucinants quand on parle de l'Amazonie. Plus de 7000 km² sur 9 pays, des paysages très différents. Il n'y a pas une Amazonie, il y a des forêts amazoniennes. 34 millions d'habitants, 350 ethnies amérindiennes, 16 000 espèces d'arbres, 450 espèces de mammifères. C'est complètement fou. C'est peut-être pour ça aussi que notre imaginaire
Qu'on la connaît mal. Et est-ce que vous avez déjà eu une heure de cours à l'école sur l'Amazonie?
Jamais.
Sur la Guyane, alors?
Même pas. Voilà. En Guyane, où l'on peut saluer nos auditeurs, d'ailleurs. En fait, on la connaît pas, l'Amazonie. Est-ce qu'on ne voulait pas la connaître? Est-ce que ça correspondait pas à ce qu'on imaginait? Il fallait que ça reste ce paradis vierge, qui n'est pas plus vierge que ça.
Non, pas du tout. Non, je crois que des grands esprits européens, et particulièrement français, considèrent que le centre du monde est sur la ceinture tempérée. Et la ceinture tropicale, en revanche, a beaucoup pâti. C'est la même chose en Afrique, c'est la même chose dans le Pacifique et l'Amazonie, on considère que c'est une zone une espèce d'impasse à la fois écologique et culturelle, alors que c'est tout le contraire. Justement, c'est un foyer, la ceinture tropicale, que ce soit donc en Afrique ou en Amérique du Sud, et sont des foyers incroyables de vie avec des milliers d'espèces d'arbres, des milliers d'espèces, alors pas tant de mammifères, mais d'insectes, d'oiseaux, de poissons, des virus, des bactéries. Mmh. Les bactéries, c'est de la vie. Alors ça nous tue, nous, mais ça reste de la vie.
Bien sûr.
Et c'est pas pour rien que les grandes zoonoses sont sorties d'abord de l'Afrique centrale, puis de l'Asie du Sud-Est. Et je crains que la prochaine, nous la fassions, parce que sortir d'Amazonie à force de la déforester.
Nous la fassions, parce qu'évidemment, on déforeste l'Amazonie, voilà, qui n'est pas du tout une forêt vierge, mais qu'on déforeste totalement dans tous les sens et avec un mépris absolu. On va y revenir. Mais cette forêt, alors vous dites, c'est vraiment le paradis de la vie et du vivant, mais c'est aussi une forêt qui a été habitée, façonnée, construite, gérée par les hommes. Les premières, il y a des sites rupestres magnifiques, il y a de l'innovation dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est vraiment une région extrêmement riche et dont les habitants, on va aussi revenir sur une autre idée reçue, ont évolué comme nous. Ce ne sont pas les mêmes qu'il y avait il y a 13 000 ans, on est d'accord.
Ils n'ont pas eu besoin de temples ni de pyramides de pierre. Ils ont construit un monde à leur image, avec une particularité, c'est une continuité entre tous les êtres vivants. Et j'inclus dans les êtres vivants les animaux, les plantes, les montagnes, les roches, les esprits. Et donc, pour les Amérindiens, il y a cette continuité des humains vers alors que nous avons construit, nous, Européens, une frontière imperméable entre la nature et la culture. C'est ce que Philippe Descola explique très bien. Et alors que les Amérindiens ont cette continuité, d'où peut-être la raison pour laquelle on a mis du temps à découvrir les traces de cette culture dans la forêt, puisque il y a tellement d'interactions, d'intimes interactions
entre les autres vivants et les humains.
Et de résilience, que finalement leurs traces sont discrètes et sont amalgamées dans cette grande nature. Mais les archéologues, depuis 40 ans, un peu grâce à l'aide aussi des anthropologues et des botanistes et de plusieurs disciplines, nous avons appris à repérer des traces apparemment discrètes des Amérindiens. Et c'est surtout en collaborant aussi avec les Amérindiens qui nous enseignent. Il faut tenir compte de la science amérindienne et de commencer par une citation Tikuna me paraît très bien choisie, parce que j'ai toujours plaidé pour le fait que on leur dit comment faire, on sait ce qui est bien pour eux. Mais nous, qu'est-ce qu'ils veulent? Il faut leur poser la question et puis il faut surtout tenir compte de la réponse, parce que c'est souvent là qu'on pêche.
Il faut tenir compte de leur réponse et en plus il faut bien l'écouter, parce qu'elle peut nous servir à nous aussi, leur réponse. Autour de la question donc de ce très riche et surprenant, étonnant passé en Amazonie, tout de suite une nouvelle question pour vous, Stéphane Rostin, soulevée par l'archéologue et ancien directeur de l'INRAP Jean-Paul Demoule, spécialiste lui de préhistoire européenne, mais également un peu empêcheur de penser en rond, un peu comme vous aussi qui était récemment notre invité.
Bonjour Stéphane, comment expliques-tu qu'un certain nombre de sociétés amazoniennes se soient passées de l'agriculture et de l'élevage, alors que d'autres, effectivement, l'ont inventé? Et pourquoi, symétriquement, c'est les Amazoniens, à ma connaissance, qui ont inventé la poterie, les chasseurs-cueilleurs amazoniens, pour les plus anciennes poteries de toutes les Amériques?
Que pouvez-vous répondre?
C'est une belle question d'archéologue, merci à lui. Alors, l'élevage, le continent américain entier n'a pas basé, comme le Moyen-Orient ou l'Europe, sa subsistance sur un développement pastoral fort. Il y a eu très peu d'animaux finalement domestiqués dans les Amériques. Hein. On en compte 4 ou 5, pas plus. Le lama, le canard, le chien, enfin très peu.
C'est un autre développement, une autre forme de développement.
On a gardé la chasse, finalement, comme pour se procurer de la protéine de mammifères. On avait de la protéine aussi beaucoup grâce aux insectes, donc c'était pas un problème d'en trouver. Ouais. Et puis beaucoup de poissons, beaucoup d'oiseaux.
Oui, ce sont des grands pêcheurs, hein, les peuples amazoniens.
Donc il n'y a pas eu ce besoin. Alors en revanche, ils ont élevé des animaux. Ils ont fait des parcs pour les tortues, des piscines pièges pour les poissons, et ça, on a très récemment appris à les reconnaître.
Au cœur de la forêt amazonienne, sauf qu'il faut les repérer, c'est ça.
Oui, et puis alors, ils utilisent les habitudes naturelles des animaux pour les capturer un peu. Par exemple, certaines anguilles fouisseuses qui vont dans la boue pour, durant la saison sèche, rester dans un peu d'humidité, on favorise des trous à Anguille, et du coup, on a une espèce de garde-manger en plein air où on va se servir. L'utilisation des habitudes des animaux, j'ai vu ça par exemple dans un parc, le parc de Beauval, où pour les oiseaux, pour leur faire leur show avec les oiseaux, ils utilisent leurs habitudes naturelles et leur heure de manger pour les adapter à leurs besoins. Ben, c'est ce que faisaient les Amérindiens. Pour les plantes, ils ont domestiqué en revanche beaucoup de plantes depuis 8000 ans au moins. Je m'étais amusé à faire avec un ami tous les grands foyers de domestication de plantes à travers le monde. Il y en a à peu près une quinzaine. Et étrangement, il y en a plus de 10 qui sont sur la ceinture tropicale. Donc, une fois de plus, et puis c'est pas une ou deux plantes qu'on a domestiquées. En Amazonie, c'est plus de 80 plantes. Mmh. Et puis, il y a beaucoup de plantes semi-domestiquées, où aussi on va favoriser leur pousse naturelle.
Les vrais jardiniers de la forêt, en fait.
Ce sont des jardiniers de la forêt, c'est exactement ça. Donc, quant à la naissance de la céramique, alors il y a plein d'hypothèses. Il y en a une qu'on ressort souvent, qui est justement en domestiquant les plantes, elles deviennent plus grosses, mais souvent plus dures aussi. On peut plus les consommer souvent crues.
Il faut les cuire.
Et donc, si on met un panier en vannerie à cuire, ça brûle, évidemment. Et donc, de là, ça induit la naissance d'un récipient qui passe sur le feu. C'est une des raisons, et évidemment, c'est lié aussi à la sédentarité qu'apparaît au même moment. L'apparition du néolithique, c'est-à-dire sédentarité,
domestication et agriculture
sont concomitantes. Avec un ordre plus ou moins différent selon les régions. L'Amazonie, c'est 7 millions de kilomètres carrés, c'est la taille de l'Australie.
Mais c'est ça, donc, c'est juste complètement fou. Et on ne peut pas parler d'une forêt. Les paysages que j'ai pu voir grâce à vous dans certains documentaires sont totalement extraordinaires, mais ça n'est pas du tout la même chose. Il y a de la savane, il y a de la forêt tropicale humide, de la forêt tropicale sèche, des mangroves. Les paysages sont extrêmement variés. Par contre, c'est vrai que la plupart des peuples amérindiens ont réussi à de vrais jardiniers de la forêt, à cultiver à l'intérieur. Mmh. Vous avez démontré ça, vous avez mis au jour
Des méthodes assez étonnantes
de terrassement.
Dans les marécages de Guyane, par exemple, quand j'étais arrivé en Guyane dans les années 80, j'avais envie de faire de l'archéologie aérienne, ça me fascinait. Et on m'avait dit, bon, en forêt, c'est pas la peine, hein, on voit rien avec la canopée. Et puis, comme j'écoute toujours les conseils, je suis monté sur un ULM et j'ai survolé le littoral de Guyane. J'ai découvert des milliers de buttes, de petites buttes d'un à quatre mètres de diamètre, disposées comme des échiquiers et qui étaient en réalité des champs surélevés précolombiens faits par les Amérindiens avant la conquête européenne pour cultiver au-dessus du niveau d'inondation dans les marécages. J'ai mis 20 ans pour prouver définitivement que c'était bien amérindien, parce qu'on me disait « Ah mais non, mais c'est naturel, c'est, comment veux-tu que des Indiens aient fait ça ?» Il y avait un peu
de condescendance
dans ces paroles. « Mais non, mais ça, ce sont les bagnards qui ont fait ça. » Ben non, les bagnards, ils n'ont pas fait ça. C'est facile à démontrer par l'histoire. Mais il y avait beaucoup de réticence à accepter une ingénierie si développée chez les Amérindiens. Et je pense qu'en une trentaine d'années, c'est peut-être la plus grande réussite des archéologues qui ont travaillé en Amazonie, c'est d'avoir démontré, prouvé qu'il y avait quelque chose qui n'était peut-être pas des pyramides incroyables ou seulement des poteries, mais les Amérindiens avaient une autre approche de leur univers.
C'est ça, en fait. Et c'est ce qu'on redécouvre aujourd'hui, où on en a tant besoin tous, parce qu'on a intérêt, on aurait intérêt, hein, vous l'avez dit, à s'inspirer de ces savoirs ancestraux, de tous ces peuples amérindiens, de leur très longue cohabitation avec et dans la forêt amazonienne. Hein, on en aurait besoin aujourd'hui pour avancer ensemble, car nous vivons tous au même moment, sur la même planète, hein, je voudrais bien le rappeler parce qu'on a du mal à s'en rendre compte, mais on va le prouver tout de suite avec un petit rap amérindien que vous nous avez fait passer entre les oreilles. Stéphane Rostin, alors le groupe s'appelle Bro MCs, et c'est en exclusivité sur RFI.
Correpi o mwahe, amuete tenonde, apuka pendere hende, awere kotewe, shini e awamba e, oi shendiwe, anye eha ete guanda, eko sende shagwa, apura heyo pashagwa, aju aheshuka, awa mbe uha, awa ko angagwa, happy o shuka, upe aha ete gwa, ko amombe uha, apurere ta,
ore jawe guado ale kere puka nyandi jara orisha upe atuisha upe rupiaha mombirima aguata jaha kende awa ara ohasado ale kendere a upeisha jau a jekopona nyandere kopona ko anga jahisha nyanehe tewi apa
ara ohasa upeisha shea ha uma owe apa ara ohasa upeisha shea ha uma owe apa uma owe apa
ara ipoti Eta gente petei, buraquera ou ewe, ou a onyondiwe. Mesmo peixauere, o mi gente quasewe, e quai quasewe. Só que o perde, jornal pe oje e, o paixa ole e, TV pe oje e, o paixa onye e, oi coa quer não i, e quai co onyomi. Só que retau é oi, inye e ratau oi, doa lei, renye e embarei. O peixa iwa indere, recha indere quai, o mi gente doi quai.
Bon, MC sur RFI, je suis quand même très fier de présenter du rap amazonien. Bah, présentez-nous un peu ce groupe donc, de rap, Stéphane Rossin, que vous nous avez fait passer.
Eh bien, c'est l'intégration un peu de plusieurs ethnies qui sont souvent proches des villes. Il faut savoir qu'en Amazonie, on a une très forte exode rurale, peut-être la plus forte au monde, où la forêt se vide de ses habitants. Plutôt les habitants colons d'ailleurs qu'amérindiens, mais aussi amérindiens qui vont se scotcher près des villes. Et là, c'est un groupe qui a constitué une petite communauté à la sortie de São Paulo, donc la mégapole brésilienne. Un taudis, vraiment, on leur a donné quelques centaines de mètres carrés pour y vivre. Et ils sont imprégnés de culture évidemment urbaine. Il y a d'autres groupes qui font d'autres types de musique occidentale. Je trouve qu'ils représentent bien cette parole d'un chef amérindien qui disait « Nous sommes nés indiens et nous mourrons blancs ».
Et ils en souffrent, évidemment.
Évidemment, évidemment.
Mais en même temps, ce n'est pas à nous de les consigner dans la forêt. Enfin, je veux dire, il faut vraiment faire attention à tout ça. On est toujours dans des paradoxes en Amazonie, ni de les considérer comme des moins que rien, ni non plus de les mettre au pinacle. Enfin,
voilà.
Comment faire pour avoir une attitude un peu juste pour les écouter, simplement.
Je pense qu'il faut leur demander.
C'est ça.
Faut leur demander. Et surtout, comme je dis, écouter leurs réponses et en tenir compte. Parce que je me souviens, à la COP21, on avait organisé un petit atelier sur le devenir des forêts tropicales. Et il n'y avait que des Blancs qui étaient là pour en parler. Il n'y avait pas d'Amérindiens. Et la conclusion, c'était vraiment... apprenons. Ce sont des scientifiques. Ils n'ont pas les mêmes sciences cartésiennes que nous. Ils ont une approche différente de la nature. Mais pourquoi serait-elle moins valable que la nôtre ? Elle est différente, mais en tout cas, ils ont montré une résilience incroyable. Ça fait 500 ans qu'ils vivent le chaos et ils s'en sortent quand même.
Et ils s'en sortent quand même, absolument.
Nous, on a un chaos depuis 2 ans. Regardez dans quel état est le monde.
Stéphane Rostin, vous avez d'ailleurs, dans l'ouvrage va apparaître aux éditions du Pommier, auquel on a emprunté le titre de cette émission, donc la forêt vierge d'Amazonie n'existe pas, ou existe-t-elle vraiment? Vous avez d'ailleurs choisi de mettre, comment dire, en vis-à-vis, justement, le rapport, alors aux quatre éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre, entre nous les Occidentaux ou les colons qui se mêlent dans la forêt amazonienne, avec les peuples indigènes, autochtones d'Amazonie. Et ben, je ne sais pas qui est le sauvage et qui est le civilisé là-dedans.
Je sais surtout, hélas, qui est le vainqueur.
C'est ça.
J'ai pris... l'idée de départ était sur la déforestation. Ça fait 2 ans qu'on vit une déforestation démentielle en Amazonie, surtout en Brésil et puis aussi en Colombie, où on en parle moins, mais ça brûle bien là-bas aussi. Et ça a été le départ de mon livre, parce qu'il existait finalement très peu de livres. Il existe 2-3 livres sur la déforestation, qui sont très bien faits, mais qui sont pleins de chiffres. Alors j'ai essayé de prendre un autre biais par l'histoire et parce que j'ai appris à travers l'archéologie. Et donc mon idée était de présenter d'une part la gestion de l'eau, de l'air, de la terre et du feu par les Amérindiens, précolombien ou actuel et celle des Occidentaux. Et c'est radicalement différent. Par exemple, les Amérindiens ont domestiqué l'eau avec ses champs surélevés, ses piscines, alors que nous, on l'a contrainte, l'eau. On l'a enfermée avec des barrages. On l'a canalisée et pour le plus grand mal de l'Amazonie. Ce qu'ont fait les Amérindiens permet une résilience transformée. Ce ne sont pas forcément les mêmes compositions végétales qui naissent derrière
leur
passage.
C'est ça, ce n'est pas une forêt vierge, ils la façonnent aussi,
ils l'ont
la
façonnée gère. En partie, à part en favorisant certaines plantes, en empêchant d'autres, en associant des plantes qui ne sont naturellement pas ensemble. Et ça repousse, légèrement changé, mais la forêt repousse derrière nous. Nous sommes les Attila des temps modernes. Rien ne repousse derrière nous.
Autour de la question, la forêt vierge d'Amazonie existe-t-elle vraiment ? Va-t-elle continuer à exister ? Alors, pas vierge, mais la forêt d'Amazonie. On en a tous besoin pour sortir des clichés sur ce paradis ou cet enfer vert. Au choix, pour s'intéresser vraiment à la préhistoire et à l'histoire de l'Amazonie et de ses habitants, je propose un nouvel éclairage, Stéphane Rostin, en forme de question, soulevé par l'écologue forestier Plinio Sist. Lui, il est directeur de l'unité de recherche Forêt et société au CIRAD et il vient diriger un ouvrage collectif excellent, Vivre avec les forêts tropicales. On l'écoute car Plinio Sist a une question pour vous. Stéphane Rostin.
Non, en fait, l'Amazonie, moi, ça m'a toujours passionné parce que c'est justement un des bons exemples qui prouve qu'il y a toujours eu des interactions entre les humains et la forêt. Et aujourd'hui, de plus en plus de découvertes assez récentes archéologiques dans le bassin amazonien montrent que par exemple, dans des anciens villages qu'on arrive à repérer, la composition floristique est très différente. Il y a plein d'espèces utiles, de palmiers, entre autres, ou de castagnes d'Amazonie. Et c'est quelque chose que le grand public ne connaît pas beaucoup. Alors moi, j'y connais pas grand-chose non plus, mais j'ai entendu dire qu'avant l'arrivée des conquistadors et des Portugais, il y avait entre 5 et 20 millions d'Amérindiens, donc avec un impact assez important sur la forêt. Est-ce qu'on en sait plus sur ce sujet-là ? Est-ce que c'est plutôt 5 ou est-ce que c'est plutôt 20-25 millions ? Parce que si c'est vraiment 25 millions, on se rend compte que l'impact a été assez fort et que les grands explorateurs qui sont venus deux ou trois siècles après la conquête des Espagnols ont certainement découvert une forêt beaucoup plus « vierge » entre guillemets qu'elle ne l'était à l'arrivée des Espagnols.
Est-ce que vous en savez un peu plus, Stéphane Rostin, sur la population amérindienne ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur l'impact qui n'a pas du tout été négatif sur la forêt, mais combien y avait-il d'Amérindiens avant d'en faire de la conquête ?
Alors, on ne sait pas aujourd'hui combien il y en a, puisque les comptages ethniques sont interdits dans beaucoup de pays.
Ah oui.
Mais on a quelques idées. Ça reste encore très général, très à la louche, j'ai envie de dire. On estime que c'est entre 8 et 10 millions. Ce sont des géographes qui se sont penchés principalement sur cette... Alors, le problème, c'est toujours cette immensité de l'Amazonie.
C'est ça.
Le long des grands fleuves, on n'aura pas la même... On aura beaucoup de grands villages, des villes, alors que dans les zones interfluviales, ça sera peut-être beaucoup plus lâche comme peuplement. Mais on estime qu'au moment de l'arrivée des Européens, 8 à 10 millions, c'est raisonnable. Il faut savoir que pourquoi il y a eu cette transformation de la forêt, du sous-sol, du modelé même de l'Amazonie, ce sont 13 000 ans d'occupation. 13 000 ans de présence humaine.
D'occupation humaine.
Nous, ça fait que 400 ans qu'on est là, réellement, les premiers siècles étant surtout de l'exploration. Donc, en 13 000 ans, les Amérindiens ont touché une grande partie de leur forêt, et puis ils ont eu le temps de l'apprendre, de la connaître intimement, et donc de la transformer. Et puis, il faut savoir que cette démographie est difficile à calculer, puisque du jour au lendemain, ça a été une chute drastique.
Due aux maladies que nous avons amenées.
Nous avons apporté des maladies d'abord, ça a été le premier déclencheur, puisque l'expédition dont je parlais tout à l'heure, qui avait descendu l'Amazone, 50 ans après, une autre expédition ne trouvait quasiment personne le long des fleuves, ou beaucoup moins de monde.
Ils avaient été décimés.
Ils étaient déjà morts, mais les gens mouraient avant même que les Européens arrivent. Pourquoi ? Il faut savoir que l'Amazonie était une immense fourmilière avec des chemins plus ou moins larges, plus ou moins profonds, creusés, surélevés dans les zones inondées. Et ces gens-là parcouraient en permanence. J'aime à dire que finalement, les Amérindiens étaient les sédentaires les plus nomades que je connaisse. Ils passaient leur temps à aller chez les autres. Alors, pour mille raisons, pour une chasse, pour une guerre, pour un concours, pour des rites chamaniques, il y avait mille raisons d'aller chez les autres. Et donc, ces gens-là échangeaient sans arrêt, et ils ont échangé très vite aussi les virus. Et donc, des Européens sont parfois arrivés dans des villages et n'ont trouvé que des squelettes dans les hamacs. Ils n'avaient même pas eu le temps de s'enterrer, puisque les Amérindiens étaient très sensibles à ces nouvelles maladies importées d'Europe. Et puis après, il y a eu un second coup. Ce sont les missions qui ont rassemblé les Amérindiens de différents groupes ensemble, et ça a favorisé la contamination de grands groupes d'Amérindiens. Donc on a involontairement, certes, mais favorisé un chaos démographique de 90 à 95% de la population qui a disparu.
C'est complètement fou, oui. Effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, il reste, enfin, dans la mémoire, justement, de ces peuples amérindiens, ce choc terrifiant? Et est-ce qu'aussi, vous dites, ces groupes, ils se croisaient, ils voyageaient énormément dans la forêt? Est-ce qu'il y a des grandes différences? Il y a énormément de langues, énormément d'ethnies différentes, énormément de coutumes, de savoirs, donc, différents. Est-ce qu'il y a toujours des relations possibles entre eux? Comment est-ce qu'on...
Alors, les Amérindiens ont construit une espèce d'équilibre. Alors, il y a plus de 350 langues qui sont pas des dialectes, des langues.
Des langues, hein.
Encore parlées aujourd'hui. Donc, une diversité culturelle correspondant à la diversité,
la biodiversité.
Là aussi, on a beaucoup de diversité. Et c'est un subtil équilibre d'alliance et de guerre. Pour maintenir à la fois une identité propre, mais tout en... alors, il n'y a pas de guerre de territoire spécialement, c'est plutôt des raptes de femmes, quand on manque de poterie notamment, pour les femmes étant les potières. Il y a des jeux de guerre, de vengeance, qui maintiennent, je dirais, cette carte légèrement mouvante, mais ou tremblante, du monde amérindien. Et donc, ces alliances ou ces guerres sont nécessaires à cet équilibre instable, mais en même temps permanent entre les groupes.
Équilibre donc, instable et permanent, ça pourrait être ça aussi la définition d'une forêt immense et gigantesque comme
c'est exactement la définition que j'ai envie de donner à la forêt amazonienne. On croit, parce qu'on a quand même des troncs qui culminent à 50-60 mètres de hauteur, hein. Quand vous marchez dans la forêt amazonienne, vous ne voyez pas le jour. Il y a 30% de lumière qui arrive au sol. Donc, il y a une vraie différence entre la canopée qui reçoit 100% de luminosité et le sous-bois qui est très obscur. Et ces grands troncs à 60 mètres d'hauteur sont fragiles. Quand il y en a un qui tombe, c'est tout un jeu de quilles qui tombe. Donc, ils sont apparemment puissants. Ils ont des contreforts énormes au pied. Mais ils sont aussi extrêmement fragiles. Et c'est le cas de la forêt amazonienne qui a l'air... on a l'impression que c'est sans fin, on peut tout couper. On est des sales gosses, hein, mais là, on a quand même pris la main dans le pot de confiture et il est temps de qu'on soit puni.
Il est temps, autour de la question, la forêt vierge amazonienne existe-t-elle vraiment? Question volontairement provocatrice, empruntée au titre de votre prochain ouvrage, Stéphane Rostin. J'ai aussi envie de vous renvoyer, chers amis auditeurs, sur le hors-série de la revue Histoire spéciale Amazonie, auquel vous avez largement participé et dont nous avons aussi un exemplaire à vous offrir. Et je ne saurais trop également vous conseiller la vision d'un documentaire extraordinaire, Le Chant de la Forêt, dont je vous propose tout de suite un petit extrait. Doublé par nos soins.
Mon père m'a demandé d'organiser sa fête pour marquer la fin du deuil, pour qu'il puisse enfin rejoindre le village des morts.
Tu deviens un chaman. Est-ce que tu le ressens?
Je suis trop jeune et ce n'est pas ce que je veux. Je vais partir.
Quel est ton prénom de blanc?
Henrik.
La maison des Indiens est pour les malades. Toi, tu vas bien.
Notre vie n'est pas ici. Rentre à la maison.
Pas encore.
Le temps du souvenir est terminé. À présent, pensez à vos enfants et à vos petits-enfants.
Je ne suis plus le même. Je connais l'âme des choses maintenant.
Le chant de la forêt, autre documentaire, film documentaire que vous m'avez fort judicieusement conseillé, Stéphane Rostin, parce qu'il démontre peut-être aussi un cliché sur la manière dont nous regardons ces peuples indigènes, autochtones, qui vivent sur la même planète et dans le même monde que nous, mais à leur manière, dans leur monde aussi.
Oui, c'est une pépite tout à fait étonnante que j'ai eu la chance de découvrir il y a 2 ans, dans un petit cinéma de Saint-Germain-des-Prés. On devait être 3 dans la salle. Et ça avait pourtant reçu un prix au Festival de Cannes. Et j'ai passé une parenthèse magique dans la forêt pendant 2 heures. On est dans l'ambiance amazonienne très forte. C'est un couple de réalisateurs qui est allé vivre 2 ans dans un village amérindien. Qui les a filmés avec une idée de scénario derrière, mais ont adapté leur scénario à la vie amérindienne. Et les acteurs sont les Amérindiens eux-mêmes. Il y en a 2 qui sont des acteurs principaux. Et ça raconte un des dilemmes les plus forts du monde amérindien. C'est l'attraction telle des lucioles attirées par la lumière, l'attraction par la ville. Qui est un vorace. Hein. Les cannibales ne sont plus dans la forêt, ils sont dans les villes maintenant. Et donc il y a cette attraction ou ce retour aux traditions et une vie plus adaptée. Et c'est un film de 4 consciences, très séduisant, très différent. Hein. C'est pas du Marvel, hein, mais c'est merveilleux.
C'est ça, c'est la lenteur amazonienne. On se demande aussi comment concilier justement ce très riche passé amazonien que vous nous faites découvrir, redécouvrir. Avec un futur si précaire, si vulnérable, avec des conditions de vie misérables. Vous avez choisi pour la couverture de votre livre, donc, apparaître sur la forêt vierge d'Amazonie n'existe pas. Pour la photo de couverture et pour la 4e de couverture, 2 photos extraordinaires de Sébastien Salgado, mais qui représentent deux Amazonies différentes. Racontez-les-nous.
Alors, c'était une opportunité extraordinaire. Je remercie encore. Lélia et Sébastien Salgado.
Lélia Salgado qu'on va avoir en ligne dans quelques instants.
Ils m'ont prêté ces photos puisque quand je suis arrivé en Amazonie en 86, c'est l'année où Sébastien Salgado a publié pour la première fois ses photos dans Paris Match. Et donc en Guyane, j'ai découvert le Paris Match avec ces photos extraordinaires de la Serra Pelada.
Des photos terribles.
Qui m'ont touché, qui jusqu'à aujourd'hui me hantent.
De
la misère amazonienne, alors que l'Amazonie était encore l'Indien à plumes et à flèches. Et donc, j'en ai parlé un jour à Sébastien Salgado en disant que ces photos me fascinaient, que j'adorerais un jour les avoir dans un de mes livres. Il m'a dit, mais il n'y a aucun problème. Et il me les a généreusement prêtées.
Décrivez-nous, alors, celle de couverture
alors,
magnifique.
Celle de couverture, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un groupe de Yanomami, une file amérindienne de Yanomami dans la forêt qui passe devant un énorme arbre qui est peint. Et donc, qui est culturalisé, identifié, sociabilisé avec des peintures corporelles mises sur l'arbre, c'est comme magnifique. Les Amérindiens. Donc, il est intégré dans l'univers amérindien. Comme je vous l'ai dit, il y a une continuité entre la nature et les Amérindiens. Et hormis la beauté esthétique de la photo, il y a une idée derrière qui est sublime. C'est franchement une photo qui me fascine.
Et derrière, les hommes et les arbres.
Et ça, c'est donc cette espèce d'interaction intime entre l'humain, l'amérindien et la forêt. Et de l'autre côté, en 4e de couverture, c'est une de ces fameuses photos de la Serra Pelada, qui est une montagne qui a été creusée complètement en Amazonie dans les années 80 à la recherche de l'or. Et c'est une des photos où on voit ce sont des milliers de garimperos, des chercheurs d'or, qu'on voit en file indienne. C'est une fourmilière humaine. Et là, au milieu, il y a un jeune homme appuyé sur un bout de bois comme sur une croix, une espèce de martyr de ce drame humain. Et ces photos me touchent énormément. Je suis très fier de les avoir dans mon livre.
Ces photos, c'est le pire et c'est le meilleur de l'Amazonie. Allez, on continue de s'interroger autour de ces photos, mais pas seulement avec vous, Stéphane Rostin, et avec Lélia Salgado qui va nous rejoindre par téléphone autour de la magnifique exposition photographique immersive Salgado Amazonia à la Philharmonie de Paris, mais aussi bientôt à Sao Paulo. Aperçu sonore et musical tout de suite avec un extrait de la création musicale de Jean-Michel Jarre à partir des sons concrets des forêts amazoniennes.
Thank you.
Imaginé par Jean-Michel Jarre à partir des sons concrets de la forêt amazonienne dans cette exposition de Sébastien Oelelia Salgado à la Philharmonie de Paris, mais aussi à Sao Paulo, à Rio bientôt, à Londres et à Rome. Bonjour Oelelia Salgado, vous êtes en ligne avec nous ?
Oui, bonjour, oui, je suis en ligne, oui.
On est ravis de vous avoir en direct avec nous et avec Stéphane Rostin pour partager, non seulement pour donner à voir finalement une autre Amazonie et d'autres visages des Amérindiens, mais aussi pour faire revivre la forêt avec votre Instituta Terra, enfin l'Institut de la Terre. Vous avez réussi
oui,
tout de même.
Institut Terra, oui.
Et oui, Institut Terra a reboisé une partie de l'Amazonie. Vous entendez bien, Oelelia, Stéphane
oui,
Rostin ?
Oui, j'entends bien. Oui, je voulais juste vous dire que ce n'est pas une partie de l'Amazonie. Nous ne sommes pas dans les biomes amazoniens.
Oui.
Nous sommes dans la forêt atlantique. La forêt atlantique, c'était la forêt qu'il y avait lorsque les Portugais sont arrivés il y a 500 ans au Brésil. Il y avait une forêt qui est du nord-est du Brésil, juste au sud, même en Uruguay et en Argentine.
Mm-hmm.
Et alors cette forêt qui rentrait 300 km à l'intérieur des terres. Et malheureusement, cette forêt est toute détruite. Aujourd'hui, on n'a que 7% de cette forêt qui existe encore. Et nous sommes dans ces biomes-là. Alors, nous avons déjà reboisé une partie de notre terre, oui. Et on a planté 2 500 000 arbres.
2 500 000 arbres, c'est fou, mais ça prouve que c'est possible. Les photos aussi de Sébastien Salgado, celles qui sont présentées dans cette exposition, et puis depuis les premières, hein, celles de la Sierra Pelada, ont aussi servi quand même de message d'alerte, j'ai l'impression, comme le travail de Stéphane Rostin nous fait regarder autrement l'Amazonie et les peuples qui y vivent. Le travail de Sébastien et votre travail aussi, Oelelia, dans cette exposition, c'est aussi de nous alerter et de nous montrer une beauté, une richesse, une force de ces peuples de l'Amazonie.
Oui, c'est absolument pas seulement des peuples de l'Amazonie, mais de l'Amazonie entière, enfin, mm-hmm. ces arbres, mm-hmm. ces animaux, enfin, tous les biomes amazoniens. Nous avons pris les parties, enfin, la partie pris de montrer la belle Amazonie, enfin celle qu'on doit protéger, celle qui peut encore abriter toutes ces populations indigènes et qui vivent de l'Amazonie, qui sont très, très heureux de vivre là-bas, oui.
C'est pour aussi sortir un peu de ce sol et de ce sous-sol amazonien qui aujourd'hui ne fait qu'attirer l'extraction minière hein, pour le sol, pour le caoutchouc. Enfin, toutes ces richesses, elles existent, Stéphane Rostin. Et malheureusement, on continue de vouloir exploiter le sol.
C'est
et le
vrai
sous-sol.
Que mes derniers livres étaient très sombres sur la fin. J'étais souvent en colère en finissant mes livres. Et grâce à Lydia et Sébastien, entre autres, grâce à leur initiative, parce que je crois de plus en plus aux initiatives personnelles, ou collectives, mais communautaires, je pense que j'ai réussi pour une fois à finir bien un livre avec une fin où je présente justement leur travail de reforestation. Alors, c'est en effet pas l'Amazonie, c'est presque pire, puisque c'est cette forêt qui a donné son nom au Brésil, hein, le bois de braise, qui était le Pernambouc, qui était servi de colorant pour l'Europe. Et on a ratiboisé cette forêt. Et comme quoi, avec une initiative personnel, on arrive à reforester cette forêt. Mais j'ai du mal à croire encore aux efforts gouvernementaux ou étatiques qui, de toute façon, sont plus intéressés parce que la forêt peut donner comme ressource économique que par une préservation de la biodiversité. Donc je trouve que c'est exemplaire d'avoir ces attitudes.
Il faut compter au fond sur chacun et chacune d'entre nous. Il faut aussi compter, alors Lélia, c'est vous qu'on a au téléphone, même si le grand photographe c'est Sébastien Osalgado, il faut aussi compter sur les femmes d'Amazonie, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que là c'est aussi un petit clin d'œil à votre ouvrage, Stéphane Rostin, l'archéologie au féminin, des portraits de femmes archéologues dans le bassin amazonien, ouvrage dont nous avons un exemplaire à offrir à nos auditeurs d'ailleurs, mais c'est vrai que j'en profite pour faire ce lien-là, parce que parmi les clichés, les idées reçues, y a beaucoup de femmes en Amazonie qui font des choses.
Mais alors, dans le cas de Sébastien et Lélia, c'est totalement vrai, puisque chaque fois que j'ai parlé avec Sébastien, il a toujours dit, Lélia et moi, c'est vraiment une initiative commune des deux. Il n'y en a pas un plus en avant que l'autre dans cette initiative. Et c'est la même chose dans l'archéologie. Je me suis rendu compte un jour qu'une chose très étonnante, on va pas... se voiler la face, l'archéologie est quand même un monde assez sexiste. Et donc il y a beaucoup d'hommes dedans, mais il y a un endroit au monde où il y a plus de femmes que d'hommes qui pratiquent l'archéologie, et c'est en Amazonie. Il y a même deux fois plus de femmes que d'hommes, et ça donne une archéologie très originale, peut-être plus consensuelle, peut-être plus extrême aussi dans des choix qui sont pas forcément la guerre choix classiques. Et je pense que l'archéologie amazonienne offre un portrait tout à fait original du passé qui est peut-être pas comparable aux autres passés mis en avant par les hommes.
Portrait d'archéologue au féminin magnifique avec des photos géniales, des histoires géniales. C'est donc à lire dans Amazonie, l'archéologie au féminin. Lélia, ça vous inspire quelque chose quand on parle d'archéologie au féminin et des femmes en Amazonie?
Oui, bien sûr. Enfin, les femmes en Amazonie, enfin, ce que je connais un peu plus, ce sont les femmes qui vivent en Amazonie, les femmes de la population indigène, et qu'elles vraiment, elles prennent vraiment soin de la terre, de la forêt. Et aussi, tout à l'heure, lorsqu'il était parlé de l'économie, mais l'économie, eux, ils font de l'économie, les Indiens, en plantant et en cherchant tout ce qu'ils peuvent prendre de la forêt, que ça soit pour les médicaments, que ça soit pour l'alimentation. Et vraiment, c'est ça la grande économie de l'Amazonie, qu'on pouvait vraiment se pencher là-dessus. C'est l'économie de l'arbre vivant, de l'arbre debout, pas de l'arbre mort. Vous voyez, parce que normalement, la terre, on va cultiver la terre, mais très, très tôt, cette terre, elle n'est plus bonne.
C'est comment la garder vivante?
Exactement, on ne peut pas la garder vivante. Alors justement, lorsqu'on a l'Amazonie vivante, elle a beaucoup de possibilités économiques et que les gens ne se rendent pas compte, les gouvernements ne se rendent pas compte que vraiment on pouvait extraire beaucoup de choses de l'Amazonie tout en ayant l'Amazonie debout, en fabriquant de l'eau, en fabriquant d'oxygène, enfin tout ce qu'on a besoin.
En écoutant les peuples indigènes d'Amazonie, en écoutant peut-être, ce serait ça les vraies Amazones de l'Amazonie aujourd'hui. Absolument. Merci infiniment Lélia Salgado d'avoir été en ligne avec nous. Je renvoie à tous nos auditeurs internautes, si vous êtes de passage à Paris, sur cette superbe exposition à la Philharmonie dont vous êtes la commissaire Lélia Salgado, des photos de Sébastien Osalgado sur une création musicale de Jean-Michel Jarre. À noter que cette exposition va voyager au Brésil, à Sao Paulo, à Rio et ensuite à Londres et à Rome. Merci beaucoup Lélia.
Merci beaucoup à vous. Au revoir.
Au revoir Lélia.
Je vais vous dire au revoir aussi Stéphane Rostin en citant Amazonie, l'archéologie au féminin, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Vous pouvez gagner aussi un exemplaire du hors-série du magazine L'Histoire sur l'Amazonie en vente en kiosque à partir du 8 juillet. Il va falloir attendre le mois d'août pour votre ouvrage dont j'ai eu la chance d'avoir les épreuves. La forêt vierge d'Amazonie n'existe pas. Apparaître aux éditions du Pommier, ça vaut le détour. À bientôt, cher Stéphane Rostin. Merci.
Au revoir et merci.
Autour de la question en Amazonie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Hugo Violas à la réalisation. Caroline Fillette en coulisses avec Inès Messaï, notre stagiaire. Rendez-vous demain pour explorer un autre continent, notre cerveau, et découvrir comment il interagit en permanence avec notre système immunitaire. Tiens donc, merci pour votre curiosité. Chers amis auditeurs, gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de RFI. Camino Real.